Ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à Ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, en studio, je recevrai Annick Larose, directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Formée en musicologie et ayant longtemps travaillé dans le domaine des arts, Annick Larose a longtemps été impliquée bénévolement dans le milieu associatif en déficience intellectuelle. Depuis 2009, elle met son expérience et ses talents de communicatrice au service de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Après avoir été conseillère aux communications, elle est maintenant directrice depuis 2015. Aujourd'hui, nous rencontrons une mère et une professionnelle qui travaillent à défendre la place des droits de liberté de la personne. On l'a. Annick Larose, bienvenue dans nos studios.
Merci de l'invitation.
On va vous connaître davantage, on va connaître votre association, on va un peu tout savoir sur vous.
Il n'y aura pas de secret.
Parce que les gens qui passent à ce micro sont des êtres d'exception et qui laissent leurs traces et qui ont un grand cœur qui ne rentre pas dans ce studio. Alors Annick Larose, justement, vous avez vécu où votre enfance?
J'ai vécu mon enfance à Laval, donc je suis une Lavalloise, j'y demeure encore. Donc, j'ai grandi dans cette banlieue. Bon, je suis quand même assez cossue, je dirais. J'ai eu une enfance assez dorée. Mon papa est médecin, donc j'ai vécu de manière assez protégée, je dirais. J'ai été éduquée à l'école française, mm-hmm. donc tout mon primaire, je suis allée à l'école Pasteur, donc c'est une école française, donc j'ai vraiment à la sortie de ce primaire-là, j'avais l'accent et je connaissais plus facilement le Jura, le Massif central, que de situer où était le bouclier canadien.
Alors, vous étiez avec Madame Spondonide?
Non, c'était Madame Lasper, qui était la directrice de l'école Pasteur, qui est à Montréal-Nord.
OK.
Donc, c'était mes parents qui avaient choisi. Mon père a toujours été un grand amoureux là, de toute la culture française. Donc, je pense qu'il a voulu donner à ses filles... moi, je suis la plus jeune, j'ai une sœur. Donc, il a voulu donner à ses filles, justement, cette culture-là. Et ensuite, je suis allée au Collège Régional Sumta, chez les religieuses. Donc, une éducation, je vous dirais, très, très propre, très rectiligne. Mais à l'intérieur de ça, j'ai très petite, je réfléchissais quand même pas mal par rapport à la moyenne des autres petites filles, peut-être, de mon âge.
Non, dans quel sens, la réflexion?
Je dirais que j'avais peut-être déjà... un bourgeon d'engagement où je me posais beaucoup de questions par rapport à la vie, questions un peu philosophiques, par rapport à la différence. Bon, moi-même, je suis née avec, les membres inférieurs différents, donc bon, ça paraît pas beaucoup, mais quand même, j'avais une différence par rapport aux autres. Donc, peut-être que c'est ça qui m'a amené un peu à réfléchir différemment par rapport au regard des autres qui étaient... bon, si j'allais à la piscine, ça pouvait se voir, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être un peu ça qui a teinté, je dirais, cette enfance-là qui était dorée, mais qui avait quand même une certaine part, justement, à cause du regard, ça, okay. qui n'était pas nécessairement très insistant, mais que dans ma tête, prenait des proportions plus grandes.
Quand vous dites quand j'allais à la piscine, ça se voyait, est-ce que vous étiez toute seule à... à le savoir ou les autres vous pointaient du doigt?
Oui, certains posaient des questions, mais j'étais pas nécessairement très équipée pour faire face à ça. Donc, rapidement, on se forme comme une carapace, puis on se dit que, dans le fond, l'essentiel, c'est pas là. Donc, très rapidement, je me suis comme concentrée et est rentrée aussi dans ma vie la musique. Donc ça a été vraiment très, très révélateur. Ça a été vraiment une compagne, la musique, puis elle l'est encore.
Une compagne ou une fuite?
Je dirais une compagne.
Okay.
Oui, vraiment une aide, une aide. Pas une fuite, mais vraiment une aide pour pouvoir, dans les arts, mais particulièrement la musique, une façon de s'exprimer, une façon de se réaliser, une façon de se projeter. Donc ça a été vraiment extrêmement important pour moi. Donc quand la musique est rentrée dans ma vie, ça a été vraiment très révélateur pour moi.
Alors ça commence à quel âge, cet engouement?
12 ans. 12 ans. Ben avant, j'aimais beaucoup la musique, mais moi, j'avais une sœur qui n'aimait pas du tout la musique, donc je m'étais dit, je m'associais beaucoup à elle, donc je me disais, si elle n'aime pas la musique, je ne peux pas l'aimer. Mais quand je suis rentrée au secondaire, mes parents m'ont donné la possibilité d'apprendre un instrument. J'ai commencé la flûte traversière et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et j'ai jamais arrêté. Bon, j'ai fait beaucoup de camps, j'ai vraiment continué là-dedans. Ça a été vraiment, l'ouverture à toute forme de musique également. Donc, moi, je suis une grande amoureuse de la chanson française. C'était extrêmement présent chez moi.
Oui, parce que déjà à l'école Pasteur,
oui, c'est
l'accent,
sûr.
L'accent, la musique française.
Oui, oui, donc ça, c'était extrêmement présent.
Est-ce que l'amour ça mangeait français aussi,
oui,
baguette
oui,
et tout?
Oui, ah, oui, 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 puis l'amour des mots, okay. la qualité du français, ça a toujours été extrêmement important pour la famille et pour l'école. Et encore pour moi, que j'essaye de véhiculer à mes enfants, moi-même. Donc, l'amour du français, l'amour des arts, ça a été vraiment extrêmement important. Et puis, donc, c'est ça. Donc, assez jeune, vers 12 ans, je crois que je dis toujours que j'ai une vocation tardive, moi, comme musicienne, parce que c'est sûr que c'est plus facile quand on commence vraiment plus tôt. Mais je l'ai faite avec beaucoup d'intensité, donc pour essayer de rattraper un peu les années perdues.
Alors, la flûte, en premier lieu...
Oui.
Au niveau du cégep, vous étiez rendu où exactement?
Oui, alors au cégep, je suis allée en sciences administratives. Donc, à vrai dire, rendu au cégep, je ne savais pas trop vers quoi je me dirigeais. Moi, j'avais une intention de m'en aller en musique, mais mes parents étaient farouchement contre. Moi, ma sœur a fait son droit. Donc, c'était une ligne un peu plus conventionnelle qu'on souhaitait pour moi. Donc, j'ai fait sciences administratives parce que ça permettait d'ouvrir. C'était clair pour moi que les sciences, c'était pas pour moi, mais tout ce qui était maths et tout ça, ça allait. Donc, j'ai décidé de faire sciences administratives, comme je vous dis, en sachant pas trop où ça me dirigeait. Et à la fin du cégep, j'ai décidé de m'en aller quand même en musique. Donc, de faire fi un peu de ce que les parents souhaitait pour moi et puis d'aller de ce côté-là. Donc, je suis rentrée en musicologie
c'est
à
ça,
l'université.
Vous avez fait un bac?
Oui, tout à fait.
En 89.
Et la
maîtrise a suivi en 91 à l'Université de Montréal.
Oui, tout à fait.
Ensuite, je vois une gestion des arts,
oui.
Un diplôme à Concordia. Donc,
oui.
Ça finit pas là, finalement.
Non,
après
c'est
la maîtrise,
ça.
Vous avez encore faim d'apprendre, de
oui.
Soif d'apprendre, comme
ben,
on dit.
Ben, c'est que, à vrai dire, c'est vraiment ma directrice de mémoire, Marie-Thérèse Lefebvre, qui est une femme qui a été très importante pour moi, musicologue, qui a beaucoup travaillé en musique québécoise et canadienne. Je me rappelle très bien, je me suis rendue dans son bureau, puis moi, dans mon idée, quand je terminais ma maîtrise, c'est que je voulais faire mon doctorat. Et elle me dit, non, je te vois pas faire ton doctorat.
Ah
donc,
bon?
J'ai trouvé ça très difficile, oh. Parce que je me disais, bon, ça y est, elle me trouve pas bonne. Bon. Non, elle me dit, je te vois vraiment plus en organisation, en gestion, en communication, mais pas à t'enfermer, faire de la recherche. C'est vraiment là que je te vois. Sur le coup, j'ai pas aimé du tout cette réponse-là. Parce
ben,
que
ça fait
pas...
mal un
oui,
peu,
ça
hein?
Fait mal
ça,
parce
ça
que je
secoue.
Me disais, ben, ça y est, elle voit pas que j'ai des capacités pour faire mon doctorat. Mais j'y ai réfléchi. Et puis finalement, je pense qu'elle m'a donné un très, très bon conseil. Parce qu'effectivement, c'était dans... Je le voyais pas à l'extérieur, mais je pense que c'était quelque chose qui m'attirait également. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire mon diplôme d'études supérieures à Concordia en gestion culturelle. Et j'ai travaillé en gestion culturelle pendant 20 ans.
C'est ça, parce que vous étiez complètement dans les arts, là.
Tout à fait.
Vraiment, là, par-dessus, là,
oui.
Comme on dit.
Oui, oui, oui. Je travaillais au Conseil québécois de la musique, je travaillais au Conseil des arts de Montréal, après ça, à l'Université de Montréal. Donc, c'était vraiment en gestion. Donc, c'est vraiment... C'était vraiment ma vie pendant une vingtaine d'années, oui.
Madame Lefebvre, elle avait comme plus qu'une intuition, finalement.
Ah oui, oui, elle a très bien vu en moi. Puis tout l'aspect aussi communication, qui était moins développé à ce moment-là, elle l'a perçu. Et je pense qu'elle était fine mouche. Et vraiment, j'ai suivi ses conseils, mais je ne l'ai jamais regretté.
Et à ce moment-là, est-ce qu'on met la flûte de côté? Qu'est-ce qu'on devient, c'est-à-dire au niveau de la musicienne?
Oui.
De celle qui est complètement passionnée, est-ce qu'on range ses instruments de musique puis on se dit, bon, ben voilà, j'ai trouvé une autre carrière et...
Je vous dirais que c'est sûr qu'à l'intérieur de moi, ben, souvent on dit que les musicologues sont des interprètes frustrés, là. Ça, c'était un peu l'image qu'on a. Mais rapidement, je me suis rendu compte que, oui, j'étais passionnée de musique, mais que je n'avais pas nécessairement l'impulsion ou la nécessaire pour pouvoir... c'est un métier extrêmement difficile de pouvoir percer. Donc, j'étais très consciente de ça. J'ai toujours eu un côté très cartésien qui me ramenait un petit peu sur le plancher des vaches, je dirais. J'ai fait également beaucoup de chants classiques à une certaine époque, à l'époque de ma maîtrise. Ça aussi, ça a été une grande source de joie là, de chanter, de faire du chant classique. Ça m'a effleuré l'esprit un moment de dire ben, je pourrais peut-être aller. Et encore une fois, c'est peut-être l'esprit cartésien qui est revenu sur le tapis pour me dire ben peut-être que j'ai du talent, mais peut-être pas à ce point pour pouvoir percer là-dedans.
Alors, on écoute, vous savez que vous avez choisi vos chansons. Cette
oui,
émission, c'est comme ça, mais il y a toujours un pourquoi.
Oui.
Hein, on ne vous laisse pas comme ça. Là.
Non, non. c'est songé. Ça a été réfléchi.
Le pourquoi est plus qu'important que la chanson, parfois.
Oui.
Julien Clerc, utile.
Oui, j'ai toujours senti... D'ailleurs, quand j'ai décidé de m'aller en musique, je me disais, est-ce que je vais être utile à la société? Pour moi, ça a toujours été extrêmement important. Excusez, j'ai comme une émotion, mais ça a toujours été extrêmement important pour moi d'être utile, que ce ne soit pas vain, dans le fond, ce qu'on fait. Et puis, plus tard, on va parler de mon implication au niveau de la déficience intellectuelle, puis c'est tout à fait là que je me suis pleinement réalisée.
Alors, on l'écoute.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimèrent. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
Annick Larose, directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Justement, à quoi sert une chanson? C'est les désarmer?
Elle sert à rien, effectivement. Puis à quoi sert une action si elle n'a pas un sens?
C'est ça. Alors, on peut dire que dans votre vie, il y a eu vraiment un changement de cap important. Parce que 20 ans, bon, conseillère en communication au Centre d'exposition de l'Université de Montréal... vous avez été responsable de la diffusion du Conseil des arts de Montréal, c'est pas rien. Et là, on a l'impression que vous aimez ça, hein, parce que vous restez 20 ans, vous êtes complètement épanoui, mais pas tout à fait. Il y a eu une action qui s'est prise.
Ben, je vous dirais que ce qui a changé ma vie, c'est le 19 avril 1995, quand j'ai eu ma fille.
C'est ça.
Que j'ai eu ma fille Marie.
C'est ça.
Marie, qui est porteuse d'une trisomie 21. Donc, c'est sûr que ce moment-là, c'est charnière. Il y a un avant et un après.
Après Marie.
Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais encore au niveau de la gestion culturelle. Mais elle a bouleversé ma vie, c'est bien entendu, parce que je ne m'attendais pas à 29 ans d'avoir un enfant handicapé. Je pense qu'il n'y a personne qui est prêt à mm-hmm. ça dans une vie. Mm-hmm. Et dans les années 2000, j'ai commencé à réfléchir un peu, parce que je m'impliquais de plus en plus justement dans la vie de ma fille. Et c'est là que j'ai décidé de travailler en déficience intellectuelle, justement pour pouvoir mettre mon implication. C'était une implication bénévole, mais je me disais pourquoi ne pas en faire mon gagne-pain et en faire également d'aller plus loin dans mon engagement. Donc c'est vraiment ça. Mais le moteur, c'est vraiment Marie. C'est certain.
C'est ça.
De ce changement-là.
Qui a la trisomie 21.
Tout à fait.
Je ne veux pas aller trop en arrière, mais comment vous étiez, si on se rapporte à la naissance de Marie, comment vous étiez, votre réaction? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes impliquée? Parce que vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait et que vous êtes devenue bénévole? C'était quoi le sens à l'époque de votre implication? Quand Marie est née?
Le sens, à vrai dire, je me suis impliquée premièrement dans la vie de Marie, donc pour faire changer des choses. Premièrement, le travail, il a fallu que je le fasse sur moi-même, parce que c'est quand j'ai eu Marie, il a fallu que je connaisse qu'est-ce que c'était la trisomie, mm-hmm. il a fallu que je m'adapte. C'est quoi la déficience intellectuelle. Donc, il a fallu que j'apprenne beaucoup. Premièrement, j'ai appris mon métier de mère parce que je n'avais jamais été mère aussi. Donc, Marie m'a tout appris ça.
Et, beaucoup d'apprentissage en même temps. Hein?
Oui, et puis d'apprentissage, beaucoup de réflexion parce que ça amène, bon, c'est quoi la valeur de la vie? C'est quoi la valeur de... C'est quoi avoir un enfant qui a un handicap? Il y a une part, beaucoup de prolongement narcissique quand on fait des enfants. Donc, il va être mieux que moi, il va faire... mais il va aller à l'université, on se prolonge. Hein? Je pense que c'est tout à fait humain de faire ça. Quand on a un enfant qui, à une heure après sa naissance, on apprend que son enfant a une déficience intellectuelle, bien, le prolongement ne peut plus se faire. Donc, c'est la voie qu'on s'imaginait, elle n'est plus possible.
C'est-à-dire qu'il y a une série de deuils.
Oui, de grands deuils. Mm-hmm. Mais en même temps, Marie m'a regardée dans les yeux à ce moment-là. Elle était tout petit bébé, je l'avais dans les bras. Et j'ai vraiment senti, aime-moi comme je suis, tout simplement. Donc la voie, il faut la faire avec elle. Donc, j'ai voulu m'impliquer pour apprendre et la suivre. Je dis toujours, c'est un Sherpa, Marie. Faut que je la suive. Donc, l'implication, ça a été premièrement pour l'intégrer à la garderie. Oui. Ensuite, l'intégrer...
Ça, c'était une bataille, ça?
La garderie, ça s'est quand même bien passé. Okay. Je dirais que la bataille, ça s'est fait plus avec moi-même parce que je trouvais ça difficile de la laisser. J'étais très symbiotique avec elle, extrêmement symbiotique. Il faut savoir que Marie, aussi, à l'âge de 2 ans, a développé une leucémie. Donc, elle a été traitée pour une leucémie. Donc, on a eu peur de la perdre, hein, c'est sûr. Donc, la rentrée à la garderie, après, j'avais extrêmement peur de tout. Il a fallu que je me... Avec mon conjoint, c'est tout, vraiment toujours un travail d'équipe, ça. Toujours. Je n'étais pas seule là-dedans. Donc,
Vous avez traversé, parce que souvent... Et puis, bon, les statistiques sont là.
Oui.
Hein? Dès qu'il y a une épreuve, malheureusement, c'est mal fait. C'est trop pour le couple, puis c'est le couple qui prend le bord. Et vous avez réussi à traverser.
Oui, et c'est avec grande fierté que je vous dis aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis mariée. Ça fait 25 ans aujourd'hui, c'est une très, très grande fierté, parce que c'est vrai que statistiquement, c'est beaucoup plus difficile.
Ouais.
Moi, je pense que les couples qui réussissent à passer à travers s'en sortent beaucoup plus fort. Donc, mais c'est sûr qu'il faut toujours, faut se parler beaucoup, c'est vraiment un travail d'équipe. Au moment où Jean flanchait, ben moi, je reprenais le flambeau. Inversement, c'était la même chose. Donc,
on était
beaucoup,
quoi.
Oui, on était beaucoup ensemble. Mm. Puis encore aujourd'hui, faut le faire, toujours se parler, s'accompagner là-dedans, parce que malgré que Marie a 20 ans, on vit d'autres deuils, hein, c'est d'autres étapes. Donc c'est vraiment cet apprentissage-là avec Marie et puis ces batailles-là, ça a été plus difficile, je dirais, rendu à l'école, parce que Marie est intégrée à l'école régulière. Donc, à l'école régulière, Louis a fallu faire des batailles. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à voir que la société va mettre des limites à Marie. Donc, il faut...
La société est pleine d'étiquettes, finalement, et de jugements.
Oui, et puis que les personnes, sans que ça soit nécessairement de la mauvaise volonté ou que les gens soient méchants, mais ont une idée déjà préconçue par rapport à la déficience intellectuelle et se confortent dans cette limite-là. Mm. Et puis, ben, comme parents, nous, la limite, il faut essayer de la repousser. Donc, et moi, je me dis, la limite, c'est Marie qui va nous l'indiquer. Mm-hmm. Et ça ne sera pas moi et ça ne sera pas, surtout pas un professeur ou une direction d'école qui va m'imposer une limite pour ma fille.
Donc, vous êtes partie presque sur un chemin de croix.
Oui, c'est un chemin de pèlerin. Hein?
Oui.
Vraiment pour intégrer une personne qui a une déficience intellectuelle, parce que dans la société, il y a une hiérarchisation un peu du handicap. Hein? Puis la déficience intellectuelle, ça fait peur, c'est méconnu. Il n'y a pas si longtemps, ces personnes-là, elles étaient exclues. Si j'avais eu Marie dans les années 40, on ne m'aurait pas posé de questions. On m'aurait suggéré fortement de s'en occuper, que l'État s'en occupe. Et elle aurait été soustraite du regard et dans une perspective, parce qu'on croyait que c'était vraiment pour les aider, ces personnes-là. Donc, on les soustrayait du regard et on disait, les parents, vous ne pouvez pas vous en occuper, puis ça va brimer vos autres enfants. Donc, laissez-nous. Nous, on sait comment s'occuper des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Moi, aujourd'hui, quand je pense à ça, je suis tellement redevable aux parents qui se sont battus, oui, justement pour que ça soit différent.
Oui.
Et que moi, jamais on m'a proposé ça, et que c'était clair que Marie, elle faisait partie intégrante de notre vie, et encore aujourd'hui, qu'elle fera toujours partie intégrante, oui, de nos vies. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des batailles qui ont été faites par des parents, encore une fois.
Et que vous avez fait aussi. À la garderie, si j'entends bien ce que vous me dites, à la garderie, c'était du bonbon.
C'est sûr qu'à l'école primaire, ouais, au début, on n'en voulait pas. Donc, il a fallu vraiment faire la démonstration que non, Marie ne nuisait pas aux autres élèves. Mais on a passé à travers les années du primaire. Et puis après ça, c'est le secondaire. Donc, c'est sûr que c'est des batailles qui sont... là, ça va être le milieu du travail. Donc, c'est des milieux qui ne sont pas nécessairement tout le temps ouverts.
Alors, on va faire une pause musicale, une autre... Claude Gauthier, « On a si peu de temps à vivre ».
Pourquoi cette chanson-là me touche beaucoup, parce que les années passent et puis peut-être parce que la cinquantaine s'approche pour moi, puis on réalise plus de choses. Et moi, ça a toujours été important, dans le fond, de m'impliquer, puis que le temps qu'on passe sur Terre, il est éphémère. Il est encore plus beau parce qu'il est éphémère. Donc, il faut s'impliquer, il faut faire quelque chose, il ne faut pas regarder le train passer. Puis c'est ça que ça me dit, cette chanson-là.
On a si peu de temps à vivre, que chaque nuit soit un baptême, que chaque lune soit de miel, que nos regards disent je t'aime. On a si peu de temps à vivre, que chaque instant soit une fête, et chaque orage un arc-en-ciel qui nous console de nos défaites. On a si peu de temps à vivre, on a si peu de temps à vivre. On a si peu de temps à vivre, que toute guerre soit en dentelle, et que la paix vienne un beau jour, pour le meilleur et pour l'amour. On a si peu de temps à vivre, on a si peu de temps à vivre. À cet enfant qui nous sourit, donnons un très bel aujourd'hui et un futur providentiel. On a si peu de temps à vivre.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec Annick Larose, directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, la CIS. Justement, on est rendu là de parler de votre fondation, votre formation, votre, tout ce que vous faites, parce que ça fait longtemps quand même que vous étiez impliquée dans l'organisme. C'était en 2009 où vous étiez aux communications.
Tout à fait.
Et là, 1er avril, vous devenez la directrice générale.
Oui, tout à fait. Donc, je suis très extrêmement fière. Donc, j'ai travaillé presque 6 ans aux communications à la CIS. Donc, ça a été vraiment cet emploi-là qui a fait que j'ai décidé de travailler en déficience intellectuelle. La directrice qui était Mme Diane Milliard a décidé de prendre sa retraite après 23 années de loyaux services. Donc, le poste a été ouvert et puis j'ai postulé. Et puis, avec un processus habituel de sélection. Et puis, finalement, ma candidature a été retenue.
Et comment vous vous sentez, là, depuis le 1er avril?
Il y a beaucoup de travail, je dirais, parce que c'est sûr que je poursuis aussi certains dossiers en communication parce que il faut poursuivre le travail qui a été commencé. Puis je suis pas quelqu'un qui laisse les choses en plan. Donc, c'est sûr que je vois que c'est un assez gros mandat, mais en même temps, je pense qu'il faut apprendre à relativiser les choses puis prendre les choses une journée à la fois puis se dire qu'on changera pas tout en 2 mois, là. Donc, c'est sûr qu'on a eu un congrès. Notre congrès était à la fin du mois de mai. Donc, là, on est très, très contents. Ça s'est bien passé.
Qu'est-ce qui est sorti de ce congrès?
Je dirais, on est dans une période... Les gens, on sent beaucoup d'inquiétude hein, avec ce qui se passe présentement. Il y a eu beaucoup de coupures au niveau des organismes communautaires. Nous, avec notre fondation, la Fondation Le Support, la situation est très difficile avec les boîtes de dons là, qu'on a entendu parler beaucoup au niveau des médias.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire, un petit peu expliquer aux gens qui ne sont pas
au courant. Oui, c'est qu'en fait, la CIS a mis en place en 1988 une fondation pour assurer la pérennité financière et donc se soustraire aussi à toutes les demandes de subventions. Puis on n'a pas d'argent de deniers publics. Donc, la façon qui était assez innovante à cette époque-là, c'était faire vraiment du recyclage et de vêtements, de biens divers.
Et d'employer sur ce fait des gens aussi.
Oui, il y a certains employés. Donc, les dernières années, on mettait des boîtes pour permettre aux gens d'aller déposer leurs biens. Et ces biens-là étaient vendus. C'est l'argent qui est amassé qui permet justement d'offrir des sous à la CIS, mais également à d'autres organismes communautaires qui travaillent en déficience intellectuelle pour des camps, des répits, ainsi de suite. Les dernières années, il y a eu une prolifération de boîtes de dons. Et ces boîtes-là, malheureusement, ce ne sont pas uniquement des fondations dûment constituées avec numéro d'enregistrement.
C'est ça, donc des fausses boîtes.
Il y a des fausses boîtes, des entrepreneurs privés qui veulent s'en mettre plein les poches. Et puis, c'était une bonne idée à l'époque parce qu'il y en a qui l'ont copié. Donc, mais ce qui arrive, ce qui est difficile, c'est que les municipalités...
Mais pas pour les bonnes raisons.
Pas pour les bonnes raisons,
c'est ça,
effectivement.
Ils s'en mettaient plein les poches.
C'est ça. Mais les municipalités veulent faire un ménage là-dessus parce que c'est sûr que les citoyens, puis je les comprends, c'est une pollution visuelle. Ils en poussent partout, dans les terrains vacants, partout. Donc, les municipalités font des réglementations qui demandent à tous d'enlever leur boîte. Naturellement, notre fondation, qui est dûment constituée avec pignon sur rue, reçoivent justement les constats d'infraction, donc vont retirer les boîtes, mais malheureusement, ceux qui ne sont pas dûment constitués continuent à avoir les boîtes. Donc, c'est sûr que ça a un impact direct sur les entrées d'argent.
Sur votre fondation et sur l'organisme La CIS.
Tout à fait.
Je crois qu'il y a des chiffres aussi. Je pense que ça a baissé, étant donné que les gens, ça pullait de fausses boîtes. Les gens ont mis leurs vêtements, leurs biens dans ces boîtes-là parce qu'ils ne savaient pas non plus. Là.
Oui, bien, c'est sûr que les gens, ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser. Ils font le ménage de leur garde-robe, ils veulent se débarrasser de leur sac. Ils croient aussi bien faire, puis en mettant ça, en voyant une fondation qui peut sembler dûment constituée. Mais ce qu'on dit aux gens, vérifiez si la boîte est dans un terrain désaffecté. Il est fort à parier que ça ne soit pas quelque chose de dûment constitué. De vérifier s'il y a un numéro de l'Agence Canada sur la boîte. Donc, c'est des mécanismes qui sont assez simples, mais c'est sûr que je pense qu'il y a un travail, un coup de barre qui doit être donné par les municipalités pour pas justement jeter le bébé avec l'eau du bain.
Mais non, c'est ça, parce que du coup, vous
c'est
vous
ça, avez ça, plus... ça a un impact direct, c'est
financier
sûr, sur nous.
Important.
Mais également sur d'autres associations partout au Québec, parce que le support donne pas juste dans la région de Montréal, mais donne partout au Québec. Donc, c'est sûr que c'est préoccupant. C'est sûr que moi, dans mon entrée en fonction, il y a un peu de ça, mais je pense que je reste optimiste. Comme je dis toujours, je ne suis pas jovialiste, mais optimiste. On va trouver des solutions pour se sortir de ce mauvais pas.
Est-ce qu'il y a une main tendue au niveau des arrondissements et des maires? Est-ce qu'ils comprennent?
Certains maires comprennent mieux que d'autres. Hier, justement, j'ai rencontré le maire de Laval, le maire de Metz, qui va mettre des choses en place. Donc, je pense que, en tout cas, je l'ai invité à devenir un porte-parole pour d'autres municipalités pour qu'ils prennent le temps de comprendre, justement, qu'il y a des fondations qui sont constituées et qui ont une vraie mission. Et qu'en déficience intellectuelle, il n'y en a pas... On n'en a pas 12 fondations en déficience intellectuelle, on en a une. Donc, je pense que c'est important de... Alors, au congrès, on a vraiment... c'était sur toutes les lèvres, on en a beaucoup parlé. Bon. Et que les associations dans toutes les régions se mobilisent justement pour faire reconnaître à leurs élus que cette fondation-là a sa légitimité et un impact sur les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.
Alors, La CIS, parlons-en. Votre mission de promouvoir les intérêts et les défenses des droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle et ceux de la famille. ou s'y renseigner, sensibiliser les membres puis les partenaires. Et vous agissez aussi comme porte-parole à titre des associations avec les différentes instances politiques et publiques. Donc, vous êtes des acteurs sociaux, finalement.
C'est ça, oui. C'est vraiment... on représente 83 associations partout au Québec, des associations de parents. C'est vraiment des parents qui ont mis ça sur pied en 1951. Donc, on va avoir 65 ans. C'est pas rien pour
quand
le
même,
milieu
hein?
associatif. On est une des vieilles associations. Et donc, c'était vraiment des parents qui voulaient justement offrir à leurs enfants une autre alternative que l'institution et également de l'éducation parce que ça n'existait pas. Donc, certains ont voulu garder chez eux ces enfants, leurs enfants, donc leur offrir un milieu sécuritaire, stimulant. Et c'est vraiment cet engagement des parents qui fait en sorte qu'aujourd'hui, peut-être les jeunes parents prennent ça pour acquis, mais moi, je me dis toujours, il faut toujours continuer à avancer parce que sinon, on peut reculer facilement. Et surtout dans le contexte qu'on vit présentement, je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant.
Une autre musique, Les choses, Edgar Borie.
Oui, c'est. Il dit on a voulu changer les choses, c'est les choses qui nous ont changé. Si on n'a pas tout laissé tomber, c'est peut-être l'amour qui en est la cause. C'est exactement mon parcours.
Changer les choses, mais les choses n'ont rien changé. Qu'on n'ait pas tout laissé tomber, c'est peut-être l'amour qui en est la cause. C'est peut-être qu'au fond on croit que les choses finissent un jour par s'arranger. On s'est promis de ne plus s'attendre et toucher à n'en plus parler. Avançant à n'y rien comprendre, en évitant la foule, à trop vouloir se rendre à pied, les marches, on les déroule, tout seul, quand on s'en va. Seule la route a ses anges. Seul, on n'est jamais seul. Tout seul. On s'est brisé au cœur des roses et juré de n'y plus penser. Le temps nous a fait funambule avec des yeux de s'envoler. On tisse au fil des enchantés quelques regrets tout seul et on s'en va. Sur la route des anges. Quand on s'en va, tout seul. J'irai au clair des dunes où l'or est de sable, au parfum des couchers de lune, je t'écrirai des fables, deux amants qui reviennent d'une histoire ineffaçable. Tout seul, quand on s'en va, sur la route des anges, tout seul, on n'est jamais seul, tout seul. Choses, et les choses nous ont changé.
Annick Larose, directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, la CIS, vous avez voulu changer les choses.
Je veux encore changer les choses. Je pense que quand on décide d'arrêter et de se dire on n'y arrivera jamais, je pense qu'on arrête de vivre, tout simplement.
Sur ce, plusieurs mémoires ont été rédigées par votre association, votre organisme. Sujet très, très important parce qu'il y a des batailles, elles sont toujours là et vous le dites, il ne faut pas arrêter sur les soins, l'intégration scolaire, les droits d'accessibilité, les soins en fin de vie, le dépistage. Quelques mots sur ces dossiers-là.
Je vous dirais, au niveau de l'intégration scolaire, je pense que c'est un élément, en tout cas moi, qui est extrêmement important parce que je trouve que quand on permet à des enfants de côtoyer la différence, c'est là qu'on change vraiment les perceptions. Donc, moi, les enfants qui ont côtoyé ma fille en classe régulière, éventuellement, peut-être, ils deviendront des employeurs. Et la journée qu'ils auront une personne devant eux qui ont un handicap, quelque handicap que ce soit ou une déficience intellectuelle, seront peut-être plus enclins à l'engager parce qu'ils ont dit, ben moi, j'aurais connu une Marie dans ma classe et puis ben elle a mangé personne. Puis elle était une petite fille enjouée qui avait des besoins très similaires aux miens. Donc, elle va peut-être avoir une ouverture. Moi, je crois vraiment que c'est par l'éducation que ça passe et de côtoyer un enfant. Mais c'est sûr qu'il faut que ça soit fait de manière adéquate. Il faut donner la possibilité, donner des outils nécessaires au milieu. Les intégrations sauvages, on n'en veut pas. Mais je pense que de rester ouvert avec cette possibilité-là et que, dans le fond, le milieu peut être gagnant ainsi que l'enfant qui a une déficience intellectuelle.
L'accessibilité, il n'y a toujours pas de loi là, au Québec. Là.
C'est un aspect qui est extrêmement important. Puis je pense qu'il faut... c'est vraiment une... Comment je pourrais dire, où il faut se rendre. Ouais. Donc, vraiment
le but à atteindre,
que ce soit l'accessibilité universelle. Je pense que c'est un aspect extrêmement important. Puis c'est sûr qu'en déficience intellectuelle, ce n'est pas des barrières architecturales, c'est des barrières parfois d'adaptation, de compréhension, d'ouverture. Donc, c'est sûr que ça nécessite pas... De penser ça en termes d'immeubles, mais je pense qu'il y a un impact direct là, sur les personnes dans leur vie au quotidien. Là.
Les soins de fin de vie.
Oui, mais ça, on s'est penché là-dessus parce que c'est sûr qu'on a été interpellés par rapport justement à la commission Mourir dans la dignité. On est allé présenter un mémoire et il y avait des aspects au niveau éthique, au niveau de potentiellement de dérives qu'on trouvait qui s'apparentaient beaucoup avec le dossier qu'on avait mené par rapport au dépistage de la trisomie 21. Donc, on est très sensible justement aux personnes qui sont plus vulnérables ou qui pourraient avoir des influences, justement, pour décider de mettre fin à leur vie, mm-hmm. et de ne plus devenir des poids pour les personnes qui les supportent. Et en même temps, on a vu des expériences dans d'autres pays qui ont mis en place, justement, l'euthanasie, en tout cas, en Suisse ou en Belgique, où on avait même entendu des parents d'enfants avec une trisomie qui demandent l'euthanasie pour leurs enfants. Donc, je pense que c'est des choses qui existent. Donc, c'est sûr que quand on est allé présenter...
Parce qu'il y en a beaucoup, désolée de vous interrompre.
Il ne doit pas en avoir beaucoup, mais il y a quelques cas, puis on les avait soulevés, justement, là, à Mme Yvon. Je pense qu'il y a eu des balises qui ont été mises. On nous a beaucoup rassurés par rapport à ça. C'est sûr que...
Quelles ont été les balises?
C'est des balises pour s'assurer que, justement, une personne qui a une déficience intellectuelle, dans le fond, elle ne pourrait pas se qualifier, je dirais. Mm-hmm. Mais c'est sûr que quand on commence à ouvrir des portes, nous, c'est dans notre rôle de dire « attention ». Il peut peut-être avoir des personnes qui vont passer à travers les mailles du filet. Et oublions pas que, oui, on peut ouvrir ces portes-là, mais il faut s'assurer qu'au niveau des soins de fin de vie, au niveau des soins palliatifs, qu'on ne fasse pas un court-circuit, on peut dire, où on ne dise pas on va mettre plus d'argent justement pour que les gens finissent leur vie, mais il faut les supporter là-dedans. Il faut mettre de l'argent dans les soins palliatifs. J'ai toujours peur, moi, des esprits comptables là, qui se disent que ça coûte moins cher qu'une personne vieillissante ou une personne handicapée. Parce que les calculs, ils sont faits. Hein. Dans le dossier du dépistage à trisomie 21, il y a des calculs qui ont été faits. Que mettre au monde un enfant qui a une trisomie, ça coûte tant. Tandis que si on dépiste, on fait sauver tant d'argent à la société.
OK. C'est
triste, mais c'est pas, on les a vus, ces chiffres-là.
Vous les avez vus, puis une personne, c'est pas des chiffres. Hein.
Je me refuse à ça. Exactement. Je me refuse à ça. Mais malheureusement, certains ont des esprits plus comptables. Et je pense que c'est dans notre rôle, c'est le rôle de la CIS, de lever le drapeau puis dire « faites attention », parce qu'au niveau éthique, oui, là, on parle de cette forme-là de dysfonction, mais il y en aura d'autres, là.
Alors, justement, on va dans l'éthique parce que le dernier sujet, et non le moindre, ça vous porte, hein, et vous partez en guerrière, et je vous dirais que vous avez raison de le faire. Le dépistage, il faut faire attention parce que c'est de l'éthique et c'est quoi, entre guillemets, quelqu'un de normal?
Oui, c'est toute une question, hein? Parce qu'effectivement, moi, ça a été le dossier qui a fait en sorte que j'ai voulu m'impliquer au niveau de la déficience intellectuelle. J'ai été très, très interpellée par... j'étais à l'époque au conseil d'administration du regroupement pour la trisomie 21 et on m'avait demandé de prendre la parole, je me rappelle, à une émission de Pierre Maisonneuve, là, justement là-dessus, suite au rapport du commissaire à la santé au bien-être. J'avais participé, justement, on avait présenté un mémoire conjointement, la CIS et le regroupement pour la trisomie 21. Et j'avais participé à ça, j'avais même amené Marie. Parce que je me disais, il faut que le docteur Sallois voit ça ressemble à quoi une personne qui a une trisomie. Mais il savait, mais en tout cas, pour moi, c'était important que Marie vienne avec moi. Et dès ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment militer pour... Encore une fois, je ne suis pas pro-vie, je ne suis pas pro-choix, je ne suis pas dogmatique là-dedans. Mais et au niveau individuel, je ne suis pas capable de lancer la pierre à personne, sauf qu'au niveau collectif, je pense que là, il y a des grandes questions qu'il faut se poser. C'est sûr que sur une base d'un programme public, parce qu'on a eu plusieurs discussions justement, avec le cabinet du ministre. Puis si on nous dit, sur une base, pourquoi madame qui a les moyens pourrait se le permettre, tandis que quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas se le permettre. Donc, c'était là-dessus. C'était de le rendre public, un programme qui existait déjà. Sur cette base-là, on est perdu d'avance. Mais sauf qu'au niveau éthique, quand un gouvernement décide de mettre un sceau sur un programme de dépistage, oui, je pense qu'il y a lieu de s'assurer que les lumières restent allumées et qu'il y a des dérives possibles.
Oui, parce que si on le fait à n'importe quel âge aussi, là, pour l'instant, c'est pour les personnes, c'est normal, là, dépasser 40 ans. Mais si on dit, on l'inclut, à l'âge de 20 ans, à tous les âges, ben, la porte est grande ouverte.
Ben, la porte est grande ouverte. Et puis, et si on dépistait pour justement trouver une façon peut-être de contrer l'effet du chromosome supplémentaire, mais malheureusement, ce qui est proposé aux femmes, très rapidement, c'est une interruption de grossesse. Mm-hmm. Et c'est aussi de la façon que c'est fait. Donc, ces programmes-là, c'est vraiment fait de façon presque systématique. Et malheureusement, on a beaucoup de doutes, nous, sur ce que c'est un vrai consentement libre et éclairé quand le médecin a certains a priori. Quand il parle de la trisomie.
Alors, c'est toute une question. On peut voir aussi vos formations à la KISS. Vous en avez plusieurs. On peut aller sur votre site.
Oui, déficienceintellectuelle.org.
Pour voir tous vos services que vous faites si bien depuis 65 ans.
Oui, presque 65 ans.
65 ans.
Oui, tout à fait.
Alors, on revient tout de suite avec la fin de l'émission et ce sera des questions à rafale. Annick Larose, donc, quelles sont les personnes qui vous ont inspirée?
Moi, je vous dirais d'emblée Jean Vanier, parce que Jean Vanier, c'est le fondateur des Arches. Et ça a été vraiment déterminant. Beaucoup de lectures que j'ai fait, ses ouvrages. Et pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui a été révélateur parce que lui-même, la déficience intellectuelle a changé sa vie. Et un homme bardé de diplômes mentionne vraiment qu'il a beaucoup appris, beaucoup plus appris sur la vie auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle qu'auprès de tous ses professeurs. Donc, je pense que c'est quelqu'un extrêmement important.
Vos mentors?
Je vous dirais, j'ai réfléchi longuement, mais moi, je vous dirais que c'est vraiment ma fille Marie.
Les livres que vous nous recommandez?
La part de l'autre, Éric-Emmanuel Schmitt. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que je trouve qu'à l'intérieur de nous, on a vraiment une part d'ombre et une part de lumière. Et qu'est-ce qui a fait que... Bon, Hitler, c'est vraiment, dans le fond, le parcours d'Hitler, mais Éric-Emmanuel Schmitt donne le parcours réel d'Hitler, mais à chaque chapitre, un chapitre sur deux, c'est si Hitler avait gagné le fameux concours aux Beaux-Arts, ça aurait été quoi sa vie? Et il aurait peut-être développé plus sa partie de lumière, justement. Moi, je suis très consciente que je pense qu'à l'intérieur de nous, on a toutes ces deux parties-là. Mais qu'est-ce qui... Ça me fascine pourquoi certaines parties... Oui. Pourquoi on va plus vers la noirceur que vers la lumière. Donc, ce livre-là, oui.
Les artistes que vous nous recommandez?
Cicilia Bartoli pour une mezzo-soprano extraordinaire que j'aime tellement. Et quand elle chante, ça nous...
Ça vient nous chercher.
Ça vient nous chercher. Bon, Edgar Borive, on a entendu tantôt. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Anne Sylvestre, que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute encore beaucoup pour l'amour des mots. Et Brassens, naturellement, pour moi, c'est vraiment j'ai beaucoup de leçons de vie dans Brassens. Leclerc, donc la liste pourrait être longue.
les villes que vous nous recommandez?
Bon, c'est sûr que je n'ai pas énormément visité, mais je suis allée quand même plusieurs fois en France. J'ai visité une toute petite ville que je garde un souvenir impérissable, Vézénobre, dans le Gard. C'est un tout petit village, c'est même pas une ville, c'est un petit village. Mais on a eu la chance de voir un spectacle des bancs publics. C'était un groupe qui chantait des chansons de Brassens et de Bobby Lapointe sur le boulodrome au-dessus avec la vallée, les oliviers.
Ah.
C'était formidable.
Merci Annick Larose d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci, ça a été un très grand plaisir.
Et merci à mon équipe Mathieu Tessier à la réalisation de l'émission, à la recherche Christiane Campagna et aux médias sociaux Kevin Breton. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye bye.